Merci Christine, bonjour à tous. J'espère que vous avez encore un peu d'énergie, hein. On ne nous donne pas le meilleur moment, on est en fin de journée, fin d'après-midi, c'est dense, hein? Voilà, mais on va essayer de passer une bonne heure ensemble avec cet atelier. Donc juste pour se remettre un petit peu dans le thème, donc effectivement cette assemblée diocésaine, c'est l'évêque qui veut écouter son peuple, qui veut discerner. Et puis il y avait aussi une autre dimension qui est de se redonner ensemble un nouvel élan. Voilà. On avance en peuple de Dieu et on essaye de trouver ensemble des moyens justement d'être chrétien et de laisser rayonner l'amour. Donc cet atelier sur ce thème-là, il s'inscrit vraiment dans cet esprit, voilà, de retrouver ensemble un élan et de devenir davantage disciples missionnaires. Alors peut-être que vous ne nous connaissez pas tous. Donc en deux mots, moi je suis le père Christophe, donc j'ai 34 ans, je suis prêtre depuis 6 ans, j'ai été 4 ans à la Tour du Pin, et puis là c'est ma deuxième année donc à Bourgoin, donc à la paroisse Saint-François d'Assise, très belle paroisse, et je fais aussi partie d'une petite fraternité qui s'appelle la Frate Théo. Donc peut-être que vous en avez entendu parler, il y a parfois des petits articles dans le bulletin diocésain. Donc la Frate Théo, c'est une petite fraternité missionnaire de prêtres et de laïcs. Et c'est l'évêque qui l'a créé, qui l'a lancé, on va dire, en 2012, pour nous demander d'aller à la rencontre des jeunes, en fait, dans les établissements scolaires catholiques du diocèse, donc dans les écoles, les collèges, les lycées, et puis aussi de répondre à la demande des paroisses qui souhaiteraient vivre des temps missionnaires. Voilà. Donc, du coup, dans les écoles, on y va régulièrement, on y va à peu près une quinzaine de fois dans l'année, voilà, dans les écoles qui nous invitent. Et les missions paroissiales, on en a fait surtout une à Voiron, donc en 2013, voilà, sur 3 semaines. On a préparé, donc je vous en parlerai un peu plus. Et c'est un peu à ce titre-là, voilà, petite expérience, mais je vais essayer de vous partager très simplement pour que ça nous profite à tous. Voilà, je suis donc avec Louis-Marie.
Voilà, Louis-Marie, moi j'ai 10 ans de moins, j'ai 24 ans, donc j'ai fini mes études d'ingénieur, je suis jeune professionnel sur Grenoble. Moi je suis plutôt du côté du Sacré-Cœur. Et on a eu la chance, la joie, d'avoir deux missions paroissiales les 2 années précédentes, une de 3 jours et une de 10 jours. Voilà. Et moi j'ai touché de près à l'organisation, ça m'a bien fait bouger. Et c'est à ce titre, eh bien voilà, pareil que modestement, on vient partager cette expérience, réfléchir avec vous sur la meilleure façon de préparer une mission paroissiale fructueuse. Voilà. Et alors pour commencer, pour qu'on se réveille un petit peu, on voulait vous proposer de partager avec votre voisin de droite les expériences d'évangélisation que vous auriez déjà eues. Attention, on ne parle pas forcément d'évangélisation dans la rue, ça peut être aussi de l'évangélisation des amis, l'évangélisation de la famille. Voilà, on sait que tout le monde ne fait pas forcément l'évangélisation de rue, mais dès qu'on aime, dès qu'on a le souci de partager la joie de ce qu'on peut vivre, notre relation avec le Christ, on est en posture d'évangélisation. Alors on vous propose de partager avec votre voisin de droite sur la joie que vous avez pu avoir de faire ça, et puis peut-être une peur ou encore un blocage que vous avez par rapport à l'évangélisation. Voilà, en 2 minutes, assez simplement. Donc il faut qu'il y ait quelque chose déjà d'existant pour accueillir. Et puis il faut donner suite. C'est-à-dire, il ne suffit pas d'une rencontre, il faut ensuite accompagner. Donc on y reviendra, ça aussi. Et si vous le voulez bien, on va s'arrêter là.
Donc voilà, ce qu'on vous propose pour notre petit atelier, c'est un peu deux grandes parties. Enfin, une première partie sur des choses plus de fond, un petit peu l'intérêt, en fait, la raison d'être d'une mission en paroisse. Et puis après, ça sera plus sur le comment, parce qu'effectivement, on a beaucoup parlé d'outils, et on aimerait bien repartir avec des outils un peu concrets et pratiques. Mais en même temps, si on passe tout de suite aux outils concrets et pratiques, on passe quand même sur l'essentiel, qui est le fond. Et donc, voilà, on va d'abord passer sur un petit moment sur pourquoi, en fait, pourquoi une mission en paroisse. Voilà, donc effectivement, c'est assez éloquent. Et je commencerai par un petit témoignage personnel. Je dirais que moi, la mission paroissiale, elle m'a converti. C'est-à-dire que, évidemment, que je pensais, dans un premier temps, une mission paroissiale, dans l'optique d'aller annoncer la nouvelle, partager une joie, mais peut-être avec trop à l'esprit l'idée que c'est les autres qui doivent changer. Vous voyez? Et en fait, au fur et à mesure que j'ai eu l'expérience de ces rencontres qui sont vraiment extraordinaires et parfois décapantes, eh bien, j'ai vraiment réalisé que c'est d'abord nous, d'abord moi, qui dois me convertir. Et donc, en fait, j'ai vraiment compris ça, que la mission, c'est vraiment un chemin de conversion, et que l'enjeu principal d'une mission paroissiale, c'est vraiment de nous aider à redécouvrir et à devenir davantage ce que nous sommes. Voilà. Autrement dit, c'est vrai que là, oui, dans les peurs, dans les craintes qu'on a évoquées à l'instant, on est beaucoup sur voilà, comment faire, quoi. Comment faire, comment parler, comment s'y prendre. Et en fait, peut-être que l'essentiel, c'est d'abord de nous ramener au niveau de l'être, c'est-à-dire ce que je suis. Et en fait, je suis baptisé, je suis disciple de Jésus, et du coup, je suis prêtre, prophète et roi. Et en tant que tel, eh bien, je suis invité à prier, à offrir comme prêtre, comme prophète, effectivement, à annoncer, à parler, mais ça peut être aussi déjà par ma vie, déjà. Et puis comme roi, à servir, quoi, à servir mes frères, à servir tous ceux qui m'entourent. Et en fait, donc l'enjeu de la paroisse, de la mission paroissiale, c'est vraiment de répondre à l'appel du Seigneur qui nous envoie. Voilà, de même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Et donc, du coup, on est vraiment, voilà, au niveau de l'être et de ce qu'on est profondément en vertu de notre baptême. Donc, comme le redit le pape François, des disciples missionnaires. Et c'est à ce moment-là qu'on entend cet appel, effectivement, à partir annoncer, mais pas pour d'abord transformer les autres, mais pour être ce que l'on est de par notre baptême. Voyez? Et du coup, c'est pour ça que de repartir de là, ça nous met vraiment en paix, parce que on sent qu'on est tous concernés. Voilà, on est tous concernés. On n'est pas plus concernés parce qu'on est prêtre ou religieux. En tant que baptisé, on a un appel universel, en fait, à être prêtre, prophète et roi. Et le fait d'annoncer, ça se greffe effectivement sur cette dimension de prophète. Mais il faut vivre toujours les trois ensemble. Et c'est ça qui est beau. Donc en fait, avant de partir en mission, avant de vouloir faire des choses, ce premier point, il voulait simplement insister sur le fait que ce qui compte, c'est cette préparation intérieure, spirituelle, et de comprendre l'enjeu qui est au fond, qui est derrière, c'est vraiment notre conversion. Voilà, ma conversion et la conversion de ma communauté. Ah, et donc je prends juste une image pour finir ce point. Effectivement, ça peut être un peu l'image caricaturale d'une mission. Donc allez, on y va, on ouvre la porte, on se lance. Mais peut-être que la bonne porte, hein, la vraie porte, c'est d'abord la porte de mon cœur. Et donc d'ouvrir la porte de mon cœur au Seigneur et aux autres. Et c'est lui qui va aussi me transformer, me changer à travers les rencontres que je vais avoir. Donc c'est vraiment dans les deux sens. Mais d'abord, effectivement, ouvrir ma porte au Seigneur qui va me toucher à travers ce que je vais vivre.
Alors, la mission, une nécessité pour moi en tant qu'évangélisateur et pour les autres. On va les appeler les évangélisés. Alors, pour mettre un petit peu l'accent sur ce point-là, je vous propose de partir de cette bonne nouvelle. C'est que nous sommes appelés, nous, en tant que baptisés, même tout humain, à partager une intimité d'amour avec la Trinité, avec notre Seigneur, pour l'éternité. Nous, on croit en un Dieu en trois personnes, un Dieu qui est relation, parce que l'amour s'échange au sein d'une relation. Et dès à présent, sur cette terre, nous sommes appelés à rentrer dans cette intimité d'amour avec le Seigneur. Alors, on n'est pas tout à fait à la hauteur, il faut qu'on s'entraîne par la répétition. On dit que la vertu s'acquiert par la répétition. Alors, il faut qu'on parte en mission une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et puis progressivement, ça va rentrer, la sainteté va rentrer. Alors, dans la Trinité, ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils se donnent tous les uns aux autres, du coup ils n'ont rien, mais paradoxalement ils ont tout, puisque les autres leur donnent tout. Voilà. Et nous, on est créés à l'image de Dieu, donc on est appelés à la même chose, à tout donner pour tout recevoir. Et bien la mission, c'est ça, c'est recevoir l'amour de Dieu et leur donner en entier pour être fortifié. Tout à l'heure, on entendait, finalement, j'ai reçu beaucoup plus. Voilà, on s'est donné et le Seigneur, dans sa miséricorde, nous nourrit encore plus. Une nécessité pour moi, parce que si je ne partage pas cet amour, et ben je stagne, je suis centré sur moi. Voilà, et ça, et ben, c'est pas forcément une posture adéquate pour avancer. Et puis pour mon frère, et ben tous nos contemporains, il faut qu'on soit convaincu qu'ils ont besoin de ça, qu'ils sont comme nous des chercheurs de Dieu, qu'ils sont comme nous créés à l'image de Dieu, et qu'ils attendent de nous cette bonne nouvelle. Moi, je trouve que ça transparaissait, je ne sais pas si vous étiez tous là ce matin, ils ont interrogé des personnes dans la rue. on sentait une soif, on sentait, ils nous demandaient une exigence d'être cohérents par rapport, voilà. Eh ben, nos contemporains nous attendent. Alors malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile, nous dit saint Paul, eh ben, malheur à moi parce que sinon je ne vais pas avancer. Et puis malheur aussi aux contemporains qui ne vont pas avancer parce que personne ne sera vu rien leur dire. Alors concrètement, il faut qu'on se donne à Dieu en communauté, qu'on se donne à nos frères, et puis on sera fortifié à notre tour. Donc c'est gagnant-gagnant. La mission, c'est gagnant pour nous, c'est gagnant pour notre société et nos contemporains.
Un autre petit point important, c'est de ne pas tomber de l'estrade. Un autre petit point important, ce qu'on peut résumer par cette expression, c'est son œuvre à lui. Voilà. Et ça donne une grande paix, parce que parfois, on se met beaucoup la pression. Et en fait, c'est son œuvre à lui, c'est-à-dire que nous avons la chance, la grâce, on peut dire, eh bien, d'être les collaborateurs de Dieu dans cette mission. Mais c'est quand même lui qui est l'acteur principal, le protagoniste, on pourrait dire. Hein. Et c'est ce que cette petite phrase de Jean-Paul II nous rappelle, l'Esprit-Saint est l'agent principal de l'évangélisation. Et Jésus est le tout premier et le plus grand évangélisateur. Donc dans toute forme d'évangélisation, la primauté revient toujours à Dieu. Voilà, qui a voulu nous appeler à collaborer avec lui et nous stimuler avec la force de son esprit. Donc ça nous donne une grande paix, parce que même si ce qu'on fait c'est raté, même si nos paroles elles sont maladroites, même si on s'y prend mal, et peut-être avec les collègues de travail par exemple ça arrive, en fait si justement on est conscient que c'est son œuvre à lui, c'est lui qui touche, c'est lui qui touche les cœurs. Nous on est un petit peu comme des canaux quoi, et on se dispose à ce qu'il se serve de nous, eh bien, on sait que le résultat ne dépend pas que de nous. Voilà, c'est vraiment lui qui agit. Et je voulais prendre comme exemple, en fait, Mère Teresa et son pinceau, parce qu'elle avait, quand elle était de son vivant, il y avait beaucoup de journalistes qui, bien sûr, venaient souvent l'interviewer et qui lui faisait son éloge et qui lui disait « Mais Mère Teresa, comment est-ce que vous faites ?» etc. Et elle rappelait toujours cela. En fait, arrêtez de parler de moi parce que c'est son œuvre à lui. Je suis simplement un pinceau entre les mains de Dieu, mais c'est lui l'artiste. Voilà. Et ça nous aide aussi à nous garder un petit peu de ce travers parfois qui consiste à chercher le truc, vous voyez, le truc qui marche, en fait, la recette miracle. On est un peu toujours à l'affût, quoi. Hein, s'il y a quelque chose qui marche dans une paroisse, on va essayer de faire peut-être la même chose chez nous. Mais en fait, ça dépend vraiment de notre union à Jésus, quoi. Plus on est uni à Jésus, plus lui il passe à travers nous, plus on est uni à l'Esprit Saint, plus il peut à travers nous toucher d'autres personnes. C'est pour ça que j'aime bien cette petite phrase toute simple qui dit il n'y a pas de paroisse missionnaire, mais des missionnaires dans des paroisses. Et c'est vraiment les personnes qui comptent. Il n'y a pas d'activité missionnaire, mais des missionnaires dans des activités. Voilà. Donc, par exemple, je sais pas, un super concert, j'étais à un super concert hier. Voilà, c'est pas le concert en tant que tel qui fait que ça va faire un effet dans les cœurs. C'est les personnes, en fait. Les personnes qui incarnent et qui vivent ces activités dans la mesure où elles sont remplies de l'amour de Dieu, eh bien, ça va passer. Voilà, c'est. Et du coup, voilà, concrètement, c'est une attitude intérieure de confiance, à la fois d'audace, mais de vraiment être docile à l'Esprit Saint, à la fois préparer les choses, mais ne pas tout ficeler pour se laisser surprendre.
Alors, j'avais prévu une petite partie, mais ça va être un petit peu redondant par rapport à ce qui vient de se dire, donc je vais être un petit peu plus bref. Moi, ma conviction que je voulais vraiment vous transmettre aujourd'hui, c'est que tout acte d'amour est évangélisateur. Si nous mettons de l'amour dans nos regards, si nous mettons de l'amour dans nos gestes, peu importe à la limite l'activité que nous faisons, ce que nous disons, c'est cet amour qui passe, qui transpire à travers nous, et c'est lui qui évangélise. Voilà, c'est ce que disait le père Christophe Marie, mais ça c'est vraiment une conviction, et c'est libérateur pour nous. Alors, puisque c'est l'amour de Dieu qui convertit en passant à travers nous, il faut d'abord que cet amour, on le reçoive. Donc, nous sommes invités d'abord à nous laisser fortifier par le Seigneur, à avoir une vie de prière, à fréquenter les sacrements, à avoir des vies de prière en communauté, avec nos frères, à vivre la charité fraternelle. C'est un préalable indispensable à la mission. Il faut qu'on soit rempli de cet Esprit Saint qui déborde et qui vient du coup toucher le cœur. C'est notre cœur qui parle au cœur de celui qu'on rencontre. Voilà. La mission est avant tout une question d'être plus que de faire. Donc ça nous libère aussi par rapport. Alors je ne sais plus qui disait ça tout à l'heure, mais voilà, qu'on ne tombe pas dans l'activisme. Ce qui compte, ce n'est pas tant l'activité, c'est le cœur qu'on y met. Et peut-être on peut finir cette citation. On ne devient pas prédicateur de Jésus en affinant les armes de la rhétorique. Tu peux parler, 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 mais s'il n'y a pas autre chose, comment devient-on prédicateur de Jésus? En conservant dans les yeux l'étincelle du véritable bonheur. Nous voyons tant de chrétiens, même parmi nous, qui avec les yeux te transmettent la joie de la voix, de la foi, avec les yeux. Concrètement, eh bien s'abreuver à la source et laisser transpirer l'Esprit Saint. Ça, si, 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 ben c'est voilà, il faut qu'on ait cette vie de prière qui nous envoie, voilà, au loin.
Cinquième petit point, la mission paroissiale au cœur d'un processus. Donc en fait, là, la conviction, c'est que la vie d'une paroisse, voilà, elle dépend d'abord d'une vision. On parle beaucoup aujourd'hui justement de vision, que ce soit d'ailleurs dans les entreprises ou ailleurs. Mais effectivement, c'est essentiel parce que la vision, dans la Bible, il y a écrit faute de vision, le peuple périt. Donc c'est vraiment une question de vie ou de mort en fait. C'est-à-dire, l'idée, c'est de savoir où est-ce qu'on va. Et pour nous chrétiens, cette vision, elle nous est vraiment donnée par Dieu. C'est pas d'abord nous qui choisissons où on va aller, mais vraiment, on reçoit de Dieu cette vision et donc ce cap. Ouais, c'est vraiment ce qu'on cherche en fait ce week-end en fait, hein, à réajuster notre vision à travers l'écoute de l'Esprit Saint. Voilà, donc cette vision de Dieu reçue par le peuple, reçue de Dieu et aussi dans le cœur du pasteur qui conduit cette communauté. C'est vraiment la première étape incontournable. Et ensuite, pour aller vers cette vision-là, donc après on peut la formuler hein, d'une façon ou d'une autre. En général, c'est en une phrase simplement une vision. On met en place un processus de transformation. Voilà, on essaye d'avancer pas à pas et si possible tous ensemble vers la réalisation de ce futur désirable, ouais, qui est la vision, pour la réaliser. Et la mission en paroisse, la mission paroissiale, eh bien, c'est justement un temps consacré à cela, à cette transformation à la fois des personnes, comme on l'a dit au tout début, hein, de la conversion personnelle. C'est vraiment un temps où on va travailler sur nous-mêmes, justement, en sortant de nos peurs, etc. Et aussi à la transformation de la communauté, à la conversion donc pastorale, globale de la paroisse. Et cette pastorale, cette conversion pastorale, donc en fait, c'est vrai que c'est une expression qu'on reprend souvent, mais il faut bien comprendre ce qu'il y a derrière la conversion pastorale. Tel que le pape François en parle souvent, c'est cette idée que c'est ce nouveau dynamisme missionnaire qui transforme ensuite tout le reste. Voilà, c'est un élan qui doit habiter tous les domaines de la pastorale, le fait d'être davantage en sortie, voilà, le fait d'être davantage ouvert sur l'extérieur et aussi sur ceux qui sont déjà là. Voilà. Et donc, du coup, c'est vraiment, vous voyez, c'est intégré à un processus. L'idée, c'est qu'une mission en paroisse, elle ne soit pas un événement ponctuel, voilà, quelque chose un peu de l'ordre d'un feu d'artifice, mais que ça puisse construire quelque chose dans le temps. Sinon, ça fera peut-être voilà, un effet ponctuel, mais ça n'aura pas de conséquences durables. Du coup, l'image que je vous proposais ici, c'est celle du porte-avions, et je la dois, tenez-vous bien, à la sacristine de l'église Saint-Jean-Baptiste de Bourgoin, qui, avant d'être sacristine, était dans l'armée. Et donc, du coup, elle disait, je ne sais plus à quel sujet, dans une conversation, en fait, une paroisse, c'est comme un porte-avions. C'est-à-dire que pour amorcer un virage, eh bien, comme ça prend du temps, il faut anticiper. Voyez? Donc, une paroisse, c'est aussi comme ça. Il faut anticiper, il faut prendre le temps. Et donc, ça veut dire que c'est important, avant de se lancer dans une mission en paroisse, eh bien, de discerner le bon moment. Voilà. Ce n'est pas forcément à faire tout de suite dans l'immédiat, dès qu'on en a entendu parler. Il faut vraiment que le pasteur, avec son équipe, avec tous ses paroissiens, sentent en fait que la paroisse est mûre pour cela et qu'elle est prête à vivre ce genre d'événement qui va vraiment la chambouler en profondeur. Donc ça se prépare longtemps à l'avance et puis ensuite ça se vit On peut donner, enfin, j'ai lu un livre où il donne un peu un repère indicatif. C'est-à-dire qu'évidemment, un prêtre, un curé, quand il arrive dans une paroisse, il ne va pas faire ça dans la première année où il est là, mais plutôt autour de la troisième ou quatrième. C'est bien s'il a encore peut-être par exemple, 1 ou 2 ans derrière pour accompagner les changements qui ont été opérés. Mais voilà, il faut vraiment discerner le bon moment pour lancer cette mission en paroisse. C'est bon, c'est juste une citation, mais on peut peut-être la passer pour. C'est le pape qui décrit. On vous donnera une petite fiche tout à l'heure.
Alors, on arrive au sixième point de fond, qui est peut-être un petit peu moins ré réjouissant, mais vraiment réel. C'est que la mission est le lieu d'un combat spirituel. Dans la mission, il y a de nombreux enjeux. Il y a un enjeu de sanctification personnelle, et c'est l'enjeu de la sanctification du monde. Et il y en a un qui n'aime pas ça. Et puis, le péché qui sommeille en nous, qui n'a pas été complètement éradiqué, se réveille parce qu'il y a des enjeux. Alors, en réfléchissant, on a trouvé peut-être 4 grands écueils, mais il y en a sûrement d'autres. Le premier, ça serait de perdre le cap, la vision donnée par le pasteur. On s'était dit, tiens, on a discerné que notre mission prendrait globalement telle forme, qu'on a globalement ces grands objectifs-là. Et puis, en cours de route, eh ben, on trouve des choses plus séduisantes, ou voilà, et on se trompe de route. Et puis là, ça marche moins bien parce qu'on n'est plus dans les plans de Dieu. Donc, le conseil, c'est au début, lorsqu'on lance la mission, plusieurs semaines ou plusieurs mois avant de commencer, on pose la vision de ce qu'on veut vivre. Et puis, on y revient régulièrement pour voir si entre-temps, eh ben, on ne s'est pas trompé de route. Le deuxième écueil, ça serait de verser dans l'activisme. On a beau avoir la bonne vision en ligne de mire, eh ben, en fait, on est comme paralysé un petit peu par toutes les choses à faire. Par le stress, par les choses qu'il faut faire, les gens à contacter, la poêle, la paella, à louer, etc., etc. Voilà. Et donc, il faut qu'on revienne à l'être, il faut qu'on revienne à la relation, il faut qu'on revienne à l'essentiel, et qu'aussi, il y ait vraiment un enjeu de faire confiance au Seigneur. Lui sait ce qu'il fait, lui nous a envoyé à mission, lui est avec nous, alors faisons confiance. Le troisième écueil, il peut y avoir des difficultés relationnelles au sein de l'équipe. Il y en a encore là qui s'amusent à nous mettre les uns contre les autres, les uns sur les autres. Donc veillons à garder une charité fraternelle au sein de l'équipe d'organisation. Et puis, on peut être découragé, voire désespéré, en se disant, mais qu'est-ce qu'on fait? On n'y arrivera jamais. C'est trop gros, on s'est trompé. Eh ben non. Restons unis au Seigneur, appuyons-nous sur lui, et par sa grâce, nous serons vainqueurs, par sa grâce, nous porterons du fruit. Voilà, donc je ne sais plus si j'avais un slide après. Voilà. Les remèdes, voilà, le Seigneur nous invite à l'aimer d'abord, à aimer nos frères, donc eh ben, à s'appuyer sur les sacrements, sur la vie de prière, à vivre, à s'appuyer les uns sur les autres pour avancer. Et puis j'étais touché par ce verset, voilà. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Si on se regarde avec amour, si on se supporte parfois aussi avec amour, eh ben, les gens vont le sentir. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils vivent? Qu'est-ce que c'est que ce truc en plus là? Moi, je veux en savoir plus. Voilà. Remède. Alors, on finit sur une petite note humoristique, avec cette conviction qu'on vous partageait un petit peu au début, que nos contemporains ont soif. Quels qu'ils soient, ils sont des chercheurs de Dieu, même le punk tatoué, percé, voilà, ils cherchent Dieu. Et donc, il y a une vraie attente, on a une vraie mission. Ne soyons pas tièdes, allons-y. Le Seigneur est avec nous et avec lui, nous serons vainqueurs. Et puis, voilà, nos contemporains ont soif.
J'étais particulièrement marqué par le témoignage de Solène ce matin dans le micro-trottoir. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette jeune fille qui témoignait justement de sa vie vraiment cabossée, etc., avec la drogue, etc. Et elle parle à la fin de vraiment de que cette rencontre lui a sauvé la vie, quoi, en fait. Elle le dit clairement. Et donc voilà, on n'imagine pas toujours voilà, ce qu'il y a derrière, mais effectivement, il y a une grande soif. Alors, du coup, maintenant, on peut passer peut-être à plutôt aux aspects pratiques. Comment s'y prendre? Alors, on va ben, en fait témoigner justement d'un petit peu ce qu'on a vécu l'un et l'autre sur 2 expériences différentes. Mais avant, Louis-Marie, tu peux rappeler le déroulé type, ouais.
Donc l'idée, c'est pas de schématiser une mission type, parce qu'il n'y a pas de mission type. Chaque mission est différente, parce que parce que c'est comme ça. Je veux dire, on a chacun nos talents, chaque paroisse a ses charismes propres, a ses compétences en interne, a des populations diverses autour d'elle. Donc il n'y a pas une mission qui ressemble à une autre. N'empêche que, on peut dire globalement que la mission, ça va de soi. Et ben, il y a trois phases. Il y a une phase de préparation, il y a le déroulé de la mission et il y a l'après-mission. Et dans chacune de ces phases, et ben, il faut faire attention, bien vivre les fondamentaux dont on a parlé au début, et puis avoir la conviction que chacune de ces phases est essentielle pour que la mission soit fructueuse. Alors si on prend l'étape de préparation de la mission, donc plusieurs semaines ou plusieurs mois à l'avance, le curé, le pasteur, va nous envoyer en mission. Il va envoyer une équipe pilote, il va charger, je ne sais pas, 4, 5 laïcs, un diacre, peut-être le vicaire, d'organiser cette mission. Il va donner un cap, une vision, une impulsion, et puis peut-être qu'on va fixer avec lui une date. Voilà. Et à ce moment-là, l'équipe pilote va se mettre en branle et puis va préparer progressivement cette mission. Et puis jour après jour, il y a de plus en plus de paroissiens qui vont rentrer dans l'organisation. Et puis on va affiner progressivement jusqu'au jour J. Au Sacré-Cœur, par exemple, pour la mission de 10 jours, on a commencé plusieurs mois avant. Vous vous en doutez bien, parce qu'il faut parler de la mission, il faut se former, il faut prier, il faut trouver les bonnes personnes, il faut imaginer ce qu'on va faire. Après, il faut organiser, faire la communication. Voilà. Je ne dis pas ça pour vous faire peur, mais il y a des choses à préparer, donc mettons-nous-y suffisamment tôt. La préparation, elle est logistique, la nourriture, la communication, les salles, le matériel. La préparation, elle est intellectuelle, donc on va se former. Qu'est-ce que ça veut dire être disciple missionnaire? Et puis la préparation, elle est spirituelle. On a rappelé tout à l'heure l'importance d'être uni à Dieu dans cette mission. Donc on va faire prier une communauté religieuse, on va faire prier des personnes malades pour la mission, on va faire des créneaux d'adoration pour la mission, lancer une neuvaine 9 jours avant la mission, voilà, pour qu'elle porte du fruit. Alors, sur le déroulé de la mission, quelques petits points. Tout d'abord, cette conviction qu'il faut adapter les activités aux personnes qu'on cible. Par exemple, on a à côté de chez nous une zone industrielle et on se dit bah, on va essayer de toucher les professionnels. Bon, bah, un professionnel, a priori, il est un peu intellectuel, on va faire une conférence. Ou, tiens, le Sacré-Cœur, c'est en plein centre de Grenoble, il y a pas mal de pauvres ou de personnes blessées par la vie, on va faire une veillée miséricorde. Voilà. Ou, il y a des familles, on va faire une kermesse. Et puis, à travers ça, on va pouvoir inviter certains types de personnes. On ne peut pas faire des événements qui conviennent à tous, c'est pas possible. Donc, il y a un moment, il faut se dire qui est-ce qu'on veut cibler, à qui est-ce qu'on veut rejoindre et quelle est la meilleure façon de le faire. Et puis, dans le déroulé de la mission, moi je pense, enfin nous pensons qu'il est bon d'avoir un temps d'évangélisation direct. Ça veut dire qu'on prenne notre courage à deux mains et qu'on parte en binôme, dans la rue, en porte à porte, soit pour inviter à une veillée le soir, soit pour parler de notre foi. C'est exigeant, ça fait un peu peur, mais quelle joie! Et surtout, on est bien accueilli. Et surtout, en faisant ça, on rejoint des gens qu'on n'aurait jamais touchés autrement. Voilà. Si on ne va pas à leur rencontre, ils ne viendront pas forcément chez nous. Donc, voilà, prenons notre courage à deux mains et allons les rencontrer. Et alors, l'après-mission, eh ben, la chose qu'on voulait vous partager, c'est surtout l'après-mission, ça ne se finit pas et puis on attend l'année d'après, éventuellement, pour refaire une mission. La mission, c'est que le début. C'est un nouveau souffle, c'est une dynamique, c'est une joie sur laquelle on va surfer pour continuer toute notre année en paroisse. Et on va s'appuyer sur les grâces reçues dans cette mission pour vivre toute cette année dans la joie avec nos frères et sœurs paroissiens. Et un dernier point qui est de garder le contact avec les personnes rencontrées. Si on regarde nous comment on s'est converti, si on regarde nous comment on a avancé dans la foi, on voit qu'il y a des personnes qui ont pris le temps, qui nous ont vus une fois, deux fois, trois fois, qui ont supporté nos errements, voilà, et qui nous ont redressés et qui ont prié pour nous. On ne se convertit pas en une fois, on se convertit en 6 ou 7 fois. Les protestants aux États-Unis, ils ont fait une enquête en combien de fois une personne se convertit. Alors en moyenne, c'est il faut qu'elles aient entendu 7 fois parler du Christ pour se convertir. Bon, c'est une moyenne, c'est des chiffres. Mais voilà, est-ce que les personnes qu'on rencontre à qui on parle de la foi, est-ce qu'on prie pour elles? Est-ce qu'on les rappelle quelques jours après? Est-ce qu'on les invite à prendre un service dans la paroisse, à un groupe de prière? On parlait tout à l'heure de la continuité. Il faut vraiment avoir ça en tête pour que la mission, voilà, que le souffle de la mission perdure pendant toute l'année.
Parler de ma petite expérience donc à Voiron, juste avant. Ouais. Moi, je soulignerai un autre point qui me paraît très important, c'est que tout le monde a sa place dans la mission. Et là, je ferai référence aux fameux 5 essentiels. Peut-être que, voilà, je pense que la plupart plupart d'entre vous en avaient déjà entendu parler, mais ce sont ces cinq éléments qui sont présents dans la vie de toute communauté chrétienne. Donc on les formule comme on veut, mais il y a la prière, il y a la fraternité, le service des plus fragiles, la formation et l'évangélisation. Et en fait, voilà, il n'y a pas de petit rôle, il n'y a pas de rôle plus important qu'un autre, il n'y a pas, je veux dire, celle qui prépare les gâteaux pour le repas partagé, c'est aussi important que celui qui justement va avoir le courage d'aller dans la rue parler à quelques personnes. Et on n'a pas tous la même place, on a chacun notre place, et toutes les places sont importantes, tous les rôles sont importants, ils sont complémentaires. Et voilà, il n'y a pas de petite mission au cœur de la grande mission. Ça me paraît vraiment important de dire ça pour souligner que voilà, on est tous appelés à faire avec ce qu'on est, en fait, et Dieu nous utilise tel que nous sommes. Voilà, donc moi je vais vous parler simplement de ces semaines missionnaires. On avait intitulé ça comme ça, qu'on a vécu donc à Voiron. C'était donc en septembre-octobre 2013. Ça a donc duré 3 semaines. Mais effectivement, il faut bien se mettre à l'esprit, comme l'a dit Louis-Marie, que ça se prépare longtemps à l'avance. Et globalement, en fait, une mission, c'est un petit peu comme le dit dans l'Évangile, nous demandons en fait une année de grâce pour le Seigneur. C'est vraiment une année, en fait, hein, qu'il faut la penser, qu'il faut la concevoir. C'est-à-dire que c'est un peu de l'ordre de ce que disait le Père Loïc ce matin, un accouchement. Voilà. Nous, on l'a préparé quasiment 9 mois avant, avec donc l'équipe paroissiale de Voiron. Et effectivement, ça demande un long labourage avant de venir vivre ces semaines. Et donc la phase de préparation, elle a duré à peu près 9 mois. On est venu donc à la demande de l'équipe paroissiale et de son curé. Et on a commencé par se présenter. Alors il faut dire que nous, la Frate Théo, donc, on était 3 prêtres qui habitions à l'époque à la Tour du Pin ensemble. Et on a eu la chance d'avoir été un petit peu accompagné, même beaucoup, et formé par un ami qui est professionnel du coaching, qui nous avait donné des bons conseils pour savoir comment s'y prendre et ne pas faire trop d'impairs. Et donc, il nous avait beaucoup insisté sur cette étape de la préparation, de la rencontre avec l'équipe paroissiale, de beaucoup être dans l'écoute, de l'écoute de cette équipe. Qu'est-ce qu'ils ont, de quoi ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils attendent, la présentation de la paroisse elle-même, et puis de dire ce que nous, en tant que petite fraternité missionnaire, nous pouvions leur proposer, pour voir si, en quelque sorte, leur demande et notre proposition, ça s'accorde bien. Et ensuite, une fois qu'on s'est parlé sur ces sujets, eh bien, on se décide ou pas. Voilà, donc ça coûte rien de demander. Et ensuite, on se rencontre et on se lance ou pas si on discerne que c'est bien. Et puis ensuite, donc, il y a toute une phase de sensibilisation donc dans la paroisse. Alors ça, c'est évidemment le curé, il joue un rôle très important. Hein. Justement, là, je reprends l'image du labour, c'est-à-dire que dans ces prises de parole, etc., il s'agit de préparer le terrain dans le cœur de ces paroissiens, puisque l'enjeu principal, comme on l'a dit, c'est la transformation en fait de nos cœurs à nous à travers cette mission. Et ensuite, nous, on était venus sur place, donc dans la paroisse, pour, au cours d'une soirée, présenter un petit peu la chose et sensibiliser les paroissiens largement. Voilà, on avait mis aussi beaucoup dans le coup les monastères, donc tous les monastères du diocèse, on leur avait écrit pour qu'ils puissent porter ça dans la prière, donc c'est son œuvre à lui, voilà, on n'oublie pas, et qu'on confie tout ça au Seigneur, cette préparation spirituelle très, très importante. Et puis il y avait tout un sondage, en fait, un sondage dans la paroisse pour savoir quels étaient les besoins, quelles étaient les attentes, quels étaient peut-être justement les publics à rejoindre davantage que d'autres. Donc c'est vraiment un temps d'écoute où on prend la température pour bien ajuster nos propositions au terrain, à la réalité. Voilà. Et donc en fait, après ces mois de préparation, on s'est lancé. Alors là, j'ai mis un volet du tract, mais donc il y avait essentiellement le matin un temps de prière dans une église avec un petit déjeuner toujours convivial. Il y avait le matin et l'après-midi des temps de visite dans les familles ou dans les commerces, dans les dans les rues aussi. C'est vrai que l'expérience du porte-à-porte n'a pas été facile. Du coup, on s'est plutôt orienté dans les rues et les commerces, voilà, sur les parvis. On s'est rendu compte que les gens étaient beaucoup plus réceptifs dans ces endroits-là, et puisqu'ils font eux-mêmes la démarche d'être sur un parvis ou d'être là dans un lieu public, il y a une ouverture du cœur qui est déjà plus sensible. Voilà. Et puis après, le soir, c'était donc des soirées un peu missionnaires avec des thèmes, vous voyez, donc le pardon, il y a eu un concert, il y a eu voilà, sur la famille, sur la prière, sur l'Esprit Saint. Voilà, il y a eu beaucoup de soirées missionnaires avec à chaque fois un temps d'annonce et puis un temps de démarche, un temps d'accueil, de convivialité, un peu les cinq essentiels, toujours présents. Voilà, et puis ensuite, il y a eu voilà, ces journées. C'était surtout du jeudi au dimanche, sur 3 semaines, parce que nous, on avait aussi notre paroisse à, entre guillemets, à desservir, hein, donc on ne pouvait pas s'absenter complètement pendant 3 semaines. Et on a vécu donc la messe de clôture le troisième dimanche. Et 2 mois après, un temps de relecture et d'action de grâce pour voir les fruits de la mission. Et pour terminer justement ce petit témoignage, je voudrais juste vous lire quelques fruits, voilà, que justement des paroissiens ou le curé m'ont redit là récemment au téléphone. Donc en fait, le curé, il disait que voilà, il faut pas attendre trop de fruits visibles, mais que c'est voilà beaucoup plus en interne et dans les cœurs que ça se passe. Donc lui, il a vraiment senti ça. Il a senti que ces 3 semaines de mission et toute la préparation en amont, ça avait permis à la communauté de prendre conscience faire des choses ensemble. Ça, c'est aussi la force d'une mission, de mettre les gens en route ensemble. Différents mouvements qui souvent voilà, organisent des activités chacun de leur côté. Là, il y avait vraiment des activités en commun, que chacun trouve sa place, prendre conscience qu'on est vraiment attendu et qu'on est assez bien accueilli. Donc notamment, voilà, comme je disais, sur les parvis ou dans les cafés, là, on avait des belles expériences. Et puis, il a dit une chose intéressante, il disait que ça avait créé un nouveau lien avec le pasteur, avec lui-même en fait, avec le curé, et que beaucoup de paroissiens avaient adopté un nouveau regard sur leur pasteur, et ils le voyaient comme quelqu'un de beaucoup plus proche en fait, et non pas seulement comme voilà comme un gestionnaire ou comme quelqu'un qui est peut-être plus loin dans leur imaginaire, voilà, et que ça redonne aussi une visibilité à l'Église. Mais voilà, il dit que l'essentiel, c'est que vraiment ça a changé le cœur de sa communauté. Ça lui permet de retrouver ou de grandir l'espérance. Puis il souligne aussi la dimension de combat. Hein, ça ne va pas tout seul non plus, mais que voilà, les personnes qui s'investissent et qui s'impliquent, elles sont vraiment ressortent enrichies. Et juste pour citer un petit fruit concret, donc dans cette paroisse, depuis la mission, il y a un groupe qui s'est mis en route pour être présent, je crois, 2 fois 2 heures par semaine, donc les jours de marché, dans l'église Saint-Bruno, donc suite à la mission, pour être là, voilà, pour accueillir et pour voilà, les gens qui rentrent, essayer de voilà, les accueillir lors de converser avec eux, et il y a des beaux fruits. Voilà, il y a vraiment des beaux fruits, et ça a donné vie à cette église qui était jusque-là un peu déserte, ou en tout cas, quand il y avait des gens qui rentraient, ils n'étaient pas forcément accueillis par des chrétiens. Voilà un petit peu un tour d'horizon de cette semaine missionnaire. Il y aurait encore beaucoup à dire, mais je laisse la parole à Louis-Marie.
Un petit mot sur les journées du Sacré-Cœur, puisque c'était le nom de ces 2 missions qui ont été organisées. Un petit mot sur le Sacré-Cœur d'abord, sur les lignes un peu de fond du Sacré-Cœur, c'est la miséricorde et l'évangélisation. C'est comme ça qu'a été bâti le projet pastoral du Sacré-Cœur, avec une vision, voilà, qui est exprimée comme suit. Accueilli par une communauté fraternelle, diverse et audacieuse, qui va au-devant de tous, croyants et non-croyants, chacun découvre combien le cœur aimant de Jésus est source de réconfort et de joie. Aimé, nous devenons témoins de l'amour. Voilà, ça c'est la vision, c'est le futur désirable que les pasteurs nous invitent à vivre au Sacré-Cœur. Un petit mot maintenant sur la mission, donc qui s'est passée les 23, 24 et 25 juin dernier. Simplement pour vous remettre dans le contexte que c'est une mission de clôture de l'année. Donc par rapport aux paroissiens et à tous ceux qui viennent au Sacré-Cœur, c'est une mission qui va célébrer ce qui a été vécu, qui va nous donner de poursuivre cette fraternité et de se projeter dans l'année à venir. Donc ça, c'était ce qui était voulu pour les bénévoles, pour les paroissiens au Sacré-Cœur. Et puis, pour tous nos contemporains qui nous entourent, bien sûr, l'objectif, c'était de les rejoindre là où ils en sont pour leur annoncer cette bonne nouvelle. L'impulsion de départ, alors, elle a été donnée par le recteur, qui a envoyé en mission une équipe pilote pour coordonner la préparation. Donc moi, j'en faisais partie, on était 5 ou 6. Et puis, on a travaillé en lien avec les équipes projets, toutes les activités, toutes les personnes déjà engagées dans la paroisse, pour que la mission soit un tout et qu'on soit tous unis dans la mission. La mission, ce n'est pas l'affaire de quelques spécialistes dans la paroisse, c'est vraiment le point d'orgue qui clôture l'année. Et on a choisi de la faire sur les dates du Triduum du Sacré-Cœur, puisque c'est la basilique du Sacré-Cœur. Alors, pour ce qui est du déroulé, peut-être quelques grands points, simplement pour vous donner des idées. On est près de la presqu'île à Grenoble, donc on a invité des professionnels, et on a fait passer les invitations par tous les professionnels qui viennent à la messe, invité 2 ou 3 collègues, et on a fait un repas, une conférence, un temps de partage. Sur le temps de midi, on était à proximité de la basilique. Voilà, c'est une proposition de mission. À 20h30, donc le jeudi soir, on a fait une veillée de louange pour ancrer dans la prière cette mission, pour la confier au Seigneur. Le vendredi, on a eu des temps d'annonces explicites dans la rue. Donc on partait en binôme. Bonjour madame, ce soir, voilà, il y a une veillée ce soir au Sacré-Cœur. On est chrétien. Est-ce que vous voudriez venir? Est-ce que vous avez des personnes malades dans votre famille? Ça peut être l'occasion de confier ça, de prendre un temps de repos sur cette question, etc. Un deuxième temps de mission, une messe solennelle avec Monseigneur, en date du solité du Sacré-Cœur. Et puis, donc le soir, voilà, on a choisi de rejoindre les France, les personnes malades ou les personnes qui portent des personnes en souffrance en proposant une veillée de prière. Un autre exemple de ce qui peut être fait dans le cadre d'une mission. Merci. Le samedi, il y avait un temps de service le matin et une kermesse. Vous voyez que mes exemples tout à l'heure n'étaient pas pris au hasard. Une kermesse pour les familles. On a pu inviter les gens du quartier, les personnes seules. Et il y a eu un vrai temps de convivialité dans les jardins du Sacré-Cœur, là où il y a la buvette, toute une après-midi. C'était suivi par un apéro et un dîner qu'on a organisé en partenariat avec l'Union de Quartier. L'Union de Quartier qui est contente de voir le Sacré-Cœur arriver. Et on arrive à faire un partenariat, entre guillemets, avec une association qui est aconfessionnelle. Et une association confessionnelle, notre paroisse, qui rayonne sur le quartier. Et ça, je pense, c'est un beau témoignage, un beau lien qu'on peut faire avec notre société. Le soir, on avait choisi de faire un témoignage. Donc on avait pris des têtes d'affiche, un peu vendeur, voilà. Et et Jean Renaud qui sont venus nous témoigner du pardon qu'ils ont vécu à l'intérieur de leur couple. Voilà. Et en ces temps parfois un peu compliqués pour la famille, peut-être que ça parle à des croyants et même des non-croyants. Et le dimanche, donc, on a notamment proposé après la messe dominicale, alors pas vraiment pour ceux qui n'ont pas la foi, mais plus pour les paroissiens de dire « Venez, réjouissons-nous et envisageons l'année à venir ». Donc la mission donnait aussi une impulsion pour ce qui allait suivre. Donc on a fait un apéro déjeuner où tous les projets de la paroisse étaient présentés, sans oublier voilà, une chaîne d'adoration qui a eu lieu pendant toute la mission. Des personnes ont porté spécifiquement 24 heures sur 24 la mission dans la prière. Et il était bon pour nous, parfois quand nous étions fatigués, de venir devant le Seigneur, de reprendre des forces, de lui confier les personnes que nous avions rencontrées, et puis de repartir plein de force pour la mission. Voilà un petit peu ce qu'on a vécu au Sacré-Cœur. C'est le temps de la conclusion.
Oui, parce qu'on aimerait bien aussi avoir un petit temps de questions-réponses ou d'échanges avec vous, ce serait vraiment important. Voilà, en disant que finalement, cette mission, c'est, voilà, comme on le disait, une année de grâce pour le Seigneur. Donc, c'est vraiment à envisager sur un petit peu le long terme pour que ça porte des fruits en profondeur et non pas un événement un peu choc. C'est vraiment une œuvre commune. Voilà, c'est vraiment à porter ensemble avec toute la communauté, le pasteur, l'équipe paroissiale, toute la communauté. Et voilà, avant de se lancer, prendre le temps du discernement pour sentir ce que le Seigneur invite la communauté à vivre, et puis ensuite, en même temps, ne pas avoir peur de se lancer, parce qu'il y aura toujours des rabat-joies, il y aura toujours des obstacles qui vont se dresser, et surtout ne pas avoir peur de commencer petitement, et je dirais même très petitement. Voilà, c'est peu importe l'ampleur de cette mission, mais ce qui compte, c'est de, voilà, à un moment donné, de se lancer si on sent que le Seigneur nous invite à le faire et à lui faire confiance. Et puis aussi de ne pas, voilà, comme on dit, comparaison poison, donc de ne pas chercher à faire un copier-coller avec ce qu'on a pu voir ailleurs ou même ce qu'on vous a dit là. Voilà, à chaque paroisse, vraiment sa mission qui lui est propre et qui correspond à son identité. Voilà. Et puis, très concrètement, donc, si jamais il y a des paroisses qui veulent se lancer, eh bien, il y a différentes aides qui sont proposées par le diocèse ou des communautés. Alors là, dans le diocèse, donc, il y a toujours la Frate Théo, qui est cette fraternité dont je fais partie avec trois prêtres, le père François-Marie Guay, qui est à Voiron, et le père Simon, qui est un Congolais, qui est donc à Trept, près de Crémieux. Voilà. Et le père Jonas, maintenant, qui nous a rejoint, qui est aussi un Africain, qui est à Saint-Marcellin. Il y a la caravane missionnaire qui s'appelle pour cette année Ephata Tour. Voilà, donc je pense qu'on nous en reparlera au Sacré-Cœur. Voilà, c'est plutôt un week-end. Voilà, c'est peut-être une échelle un peu plus réduite, mais en tout cas, c'est vraiment cette logique-là. Et l'EMI, donc qui est l'équipe missionnaire itinérante, ça, c'est la communauté de l'Emmanuel, qui propose aussi son aide aux paroisses qui veulent se lancer dans cette belle aventure. Voilà, merci de votre.
Le service évangélisation.
Oui, qui en fait, oui, dont la Frateo et la caravane missionnaire sont dépendants en fait. Hein. Ouais. Mais effectivement, le mieux, c'est de passer par le service évangélisation qui saura vous orienter en fait. Voilà. Merci. Voilà. Donc, je ne sais pas si tout le monde a entendu ou pas la question. Donc, la question, c'est est-ce que ce qu'on a présenté là, ça s'applique aussi aux autres missions? Donc, là, vous parlez de la pastorale santé, la catéchèse. Voilà. En fait, moi, je répondrai un peu, ça rejoint la toute première question, le premier point. Donc, c'est une mission en paroisse, elle est au service de la conversion pastorale, donc la conversion de chaque personne, de chaque paroissien, et la conversion de la pastorale elle-même, c'est-à-dire la façon qu'on a de vivre notre foi et de l'annoncer. Donc, en fait, nous, par exemple, quand on est allé à Voiron, on a rencontré effectivement les équipes de préparation au mariage. On a rencontré aussi les équipes de catéchèse ou d'aumônerie. Le but, c'est le renouvellement de la pastorale ordinaire, ce qu'on appelle la pastorale ordinaire, donc la préparation au sacrement, l'annonce de la foi. Donc, en fait, tout le monde en bénéficie par cet événement qui est un peu un souffle en fait de l'Esprit Saint qu'on essaie de faire passer à travers toutes les arcanes, tous les domaines de la pastorale. Je sais pas si ça répond à votre question. Fait, moi je dirais que la mission en fait c'est une attitude permanente quoi. En fait, et simplement la mission en paroisse c'est un moment où on se dit allez ensemble on va essayer de vivre cette dimension-là de la vie chrétienne de façon un peu plus marquée, un peu plus forte ensemble en communauté. Mais la mission c'est une attitude permanente en fait, hein. Il me semble, hein. Et du coup, bah, oui, c'est tout à fait ça, hein. Le bon samaritain en fait qui prend sur sa monture, quoi. Faut prendre sur soi, quoi. Et je repense encore à cette Solène, hein, qui a rencontré cette personne donc à la mission Bonne Nouvelle. Bah, cette personne qu'elle a rencontrée, bah, elle a pris vraiment Solène en charge en fait, hein, et accompagné Solène dans une relation durable. Et du coup, ça lui a permis de sortir de. En fait, on peut peut-être dire aussi qu'une mission en paroisse, c'est presque un peu l'équivalent d'une retraite paroissiale, c'est-à-dire que ça fait vivre à tous les chrétiens qui sont déjà engagés, et pour certains jusqu'au cou, dans les services de la paroisse, en fait, un temps fort dans leur propre foi, et qui est déjà engagé, mais qui a besoin toujours d'être nourri, quoi. Et donc, c'est pour ça que, voilà, c'est le dernier temps qu'on a eu de partage tout à l'heure, c'était ces trois cibles, hein. Il y a les chrétiens, les croyants pratiquants, les croyants, les baptisés non pratiquants, et puis ceux qui n'ont jamais entendu parler. Et donc là, voilà, à travers différentes propositions d'une mission paroissiale, on essaye effectivement de nourrir chacun de ces, publics, en fait.